السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de vivre cette première décade du mois de Ramadan. Alhamdulillah wa shukrulillah. Soyons conscients que nous vivons un mois exceptionnel, le meilleur de l'année. Nous vivons les meilleurs jours de notre vie sans le moindre doute et les moments les plus profitables pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et préparer notre vie après la mort et les étapes de l'au-delà. Et c'est extrêmement important de faire le lien entre ce que je fais maintenant et l'aboutissement de ces actions. Ne pas être ce croyant qui reproduit des schémas de bonnes actions régulièrement tous les ans. Le Ramadan, c'est la période où on est le plus engagé dans les amal saliha, et je l'ai fait sans réfléchir, presque inconsciemment. Non, on doit être capable de faire le lien entre mes bonnes intentions, mes efforts, et le fait que je suis en train de rechercher l'agrément d'Allah. Et ça, ça fait partie de la tamamul ikhlas. La sincérité, ce n'est pas juste pour Allah et ne pas faire pour les gens. Si, ça c'est la base de la sincérité. Si on pousse la sincérité au summum, à son paroxysme, on atteint le ihsan. Et le ihsan, c'est adorer Allah comme si que tu es devant le trône d'Allah. Ainsi donc, on essaie d'être concentré, d'être sincère et d'avoir une vision à long terme. Et quand on dit à long terme, c'est vraiment très long terme. À long terme jusqu'à notre mort, mais également long terme, mahshar, au-delà, qiyama, jusqu'à l'accès au jannah, obtenir l'agrément d'Allah, azza wa jal. Ce n'est pas quelque chose de simple, facile à dire. Mais arriver à faire ces connexions de notre cœur, c'est une guidée qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et à cet instant, de cette mosquée et de cette assemblée bénie, de ce mois béni, nous demandons à Allah Rabbul Izzah de nous accorder quelque chose de très important qui s'appelle Al-Basira. Al-Basira, c'est là la clairvoyance. Qu'Allah nous accorde également Al-Furqan. C'est quoi Al-Furqan? Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ça va de le même sens que la clairvoyance, c'est le discernement. Le discernement. Allah te permet de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Allah te permet de savoir où tu mets les pieds. Allah te permet d'accomplir les bonnes actions avec présence de cœur, avec concentration, avec dévotion. Ce que les psychologues appellent, dans les termes modernes, en pleine conscience. Par opposition à celui qui accomplit les mêmes bonnes actions en mode rafla, en mode insouciance, sans comprendre ce qu'ils font. Donc Allah nous accorde, ça fait partie des sifat, des qualités intérieures, des amalul quloub, qu'Allah nous accorde ces qualités. Mes chers frères et sœurs, nous avons perdu cette année, et même on va dire ces derniers mois, beaucoup de proches, il y a beaucoup de mayettes, beaucoup de défunts au sein de la communauté. Ça peut être un mari, une épouse, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, ou alors ça peut être également des amis, des collègues, des gens qui nous étaient proches, des gens de la masjid. On a des frères de Montreuil, on a des frères de la Tanier, de Nour Islam. Nous avons tous perdu quelqu'un qui était dans le même saf que nous. La question, ceux qui sont décédés il y a 3 mois, 4 mois, 1 an, ils sont où? Ils sont où maintenant? Qu'est-ce qu'ils font à cet instant? Il n'y a bien sûr aucun moyen de communiquer avec eux, mais la question mérite d'être posée. Qu'est-ce qu'il en advient d'eux à cet instant? Mais mes chers frères et sœurs, ils sont en train de vivre de leur qabr, de leur tombe, le résultat de leur vie passée sur terre. C'est pour ça que je parlais de faire le lien entre ce que tu fais maintenant et leur aboutissement. Ça, c'est le croyant intelligent. Le prophète alayhi salat wa salam l'avait qualifié de al-kayyisu. Al-kayyisu. C'est vrai qu'en allemand, ça ressemble à Kaiser. C'est vrai, ça se ressemble. Mais c'est un sens puissant. Al-kayyisu man dana nafsahu 'amila lima ba'da al-maut. L'homme intelligent, le croyant clairvoyant, c'est celui qui travaille pour son qabar, qui travaille pour son mahshar, qui travaille pour son akhirah. C'est pas celui qui dit à qui Molissable a dit ou Fundi a dit ou bien les parents ont dit il faut faire namaz. Il y fait, il avance, il fonce, il le fait, c'est bien aussi. Mais Al-Kayis, l'homme intelligent, celui qui a le Basira, qui a le tous les termes, le Furqan, tout ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, c'est la personne qui le fait pleine conscience et avec un objectif précis. Il sait pourquoi il l'a accompli. Donc, ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, ces dernières années, tous nos défunts sont dans l'attente. Mais qu'est-ce qu'il en advient d'eux? Ils sont en train de vivre le résultat de leur vie passée sur terre. Allah yarhamhum. Qu'Allah fasse que leur tombe soit rawdatum min riyad al-jannah. Et même ceux qui nous ont quittés bien avant, bien avant, bien avant. Et là, quand j'ai des gens présents devant moi, je vois ces gens et je sais qui c'est qu'ils ont perdu. Je vois notre ami Moussa et je pense à son frère qui était un alim et qui nous a quittés il y a Allah, quoi, j'étais petit, il y a 30 ans au moins. Qu'est-ce qu'il en advient de lui? Et chacun, chaque personne qui a perdu une personne, ils obtiennent de leur qabr, de leur tombe, ce qu'ils ont œuvré, ce qu'ils ont préparé dans ce dunya. Ainsi donc, quel est le message? Le message, c'est bienheureux. Hani al-liman, touba liman. Bienheureux, ceux qui ont amené de leur tombe de bonnes actions. Et ceux qui ont délaissé de ce dunya leurs péchés. Ceux qui, avant de quitter ce monde, ont effacé leurs dettes. Dettes, on va dire en termes d'argent, mais dettes morales également. Ils ont fait du tort à personne. Et qui ont demandé tawba à Allah pour leurs péchés. Dettes spirituelles, plus de kaza de salah, plus de kaza de quoi que ce soit. Et qui descendent. Et lorsque le fils, le neveu, le petit-fils descend le corps de ce grand-père ou de ce papa dans la tombe, c'est un corps qui descend, il n'y a plus de péché dans son livret de compte. Wallahi, ça c'est un homme qui est bien heureux. Même s'il a quitté ce monde avec 120 euros sur son livret de compte, sur son compte en banque, il n'y avait pas grand-chose tant qu'il n'était pas endetté. Même s'il n'était pas connu de tout le monde, c'est quelqu'un qui rentre dans la tombe et qui a concrétisé. Khalas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Khalas, tahaqqaq. Il a concrétisé l'objectif de sa création. Donc ces mayyit, ces défunts sont en train de bénéficier de ce qu'ils ont œuvré de ce dunya. Et donc bienheureux celui qui a accompli de bonnes actions, qui s'est acquitté de ses dettes et qui a demandé pardon pour ses péchés et qui laisse des enfants pieux, qui continuent à faire de bonnes œuvres et qui font dua pour eux et qui perpétuent les bonnes actions. Chers frères et sœurs, profitons de ce mois justement pour construire notre capital taqwa. Qu'est-ce que j'appelle le capital taqwa? C'est toutes les actions que tu accomplis au quotidien. Ça augmente ta taqwa. Ça augmente ta piété, faisant en sorte que ma piété elle atteint le summum durant ce mois béni, afin que l'après Ramadan, nous avons cette piété qui est en nous et qui nous permet l'istiqama, de continuer à avancer. Le but, ce n'est pas que, mashallah, pendant 30 jours, alors 28 cette année, Dieu seul le sait, ou 29, ce n'est pas que tous les matins, 3h30, 3h30 AM, Moussalla, jeté par terre, tahajjud. Mais le 2 Shawwal, il n'y a plus rien. Non, ce n'est pas ça le but. Tout ça, c'est dalil ala naqs. C'est une preuve qu'il y a un manquement dans al-basira, al-furqan, la clairvoyance et de réel capital taqwa. Parce qu'il y a eu un élan, une poussée de bonne action de le mois béni et elle disparaît après. L'objectif n'est pas atteint. C'est pour ça que on n'arrête pas de dire, c'est bien de faire, de produire, mais il faut à un moment donné, on s'arrête un instant, on réfléchit. L'homme intelligent, et le Coran nous appelle à la réflexion. On parle de ulul albab, des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui comprennent et qui arrivent à donner un sens qu'Allah nous l'accorde. On était un peu loin dans l'introduction, sachant que le programme est très long. Donc on essaie de... On avance, Inch'Allah. Mais à mon humble avis, c'est la base. Si j'ai compris que je dois paramétrer mon niya et que dès maintenant, quand je fais de bonnes actions, je le fais pour Allah sincèrement, et mon niya doit déjà englober le istiqama. Quand je demande à Allah, accepte-moi pour faire tahajjud durant tout ce mois, mais également après le mois béni. Ça, c'est une vision à long terme. C'est-à-dire, chaque action que tu vas accomplir, quand tu prends ton mushaf, ton Coran pour lire, ne te dis pas que je fais mon khatam ramadan ou mon khatam hebdomadaire, enfin, selon chacun son rythme. Mais dans ton cœur, il n'y a que je fais ma lecture du Coran quotidien pour toute ma vie. Pour toute ma vie. Ça, c'est un croyant intelligent. Quand tu donnes le monde en sortant, ce n'est pas juste que Ramadan égale sadaqa. Non, fais en sorte que tu t'investis pour dans le chemin d'Allah jusqu'à tes derniers jours pour obtenir les récompenses. Indallah. Ikhwani khawati fillah, il me semble que, on est quoi, le 10e Ramadan aujourd'hui, à peu près?
On est après une décade. Tout le monde a déjà entendu les hadiths de base sur le mois béni. Donc, on ne va pas les répéter. Wanawaki, il a dû le dire hier, la semaine dernière, il a dû l'expliquer. Et dans les différents ta'alim, tout le monde le sait. D'accord ? Je veux juste vous dire que si on fusionne deux hadiths, les deux plus connus, on va dire, enfin, deux hadiths connus, celui de Abu Hurayra radiallahu anhu et de Ubad ibn Samit radiallahu anhu, on retrouve à peu près 11 fada'il, 11 vertus connues, authentique pour le mois béni. Le hadith de Ubad ibn Samit commence par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est connu. Et le hadith d'Abu Hurayra également connu, rapporté par Imam Ahmad al-Tirmidhi al-Nasa'i. Les 11 vertus qu'on peut énumérer, et puis on passe à notre sujet. Le mois de Ramadan, c'est un mois de baraka, bénédiction. Un mois de clémence, rahma. Porte du paradis ouverte, porte de l'enfer fermée, ash-shayatin. Les diables sont enfermés, c'est-à-dire que leur influence est diminuée. Le nafs, ammaratum bisou, le nafs est affaibli aussi. Donc il ne nous ordonne plus le mal autant qu'en dehors du mois béni. Les bonnes actions ont plus de valeur. Chaque bonne action que tu accomplis est multipliée. Et le pardon divin, Allahu Akbar, le maghfira, atteint son summum durant le mois béni. Et chaque nuit, des personnes sont délivrées du feu de l'enfer. Parmi ceux qui devaient y entrer, des gens qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais qui ont accompli trop de péchés dans ce monde, qu'Allah nous protège, Allah décide de les protéger de ce passage du feu de l'enfer et qu'Allah nous délivre, délivre nos parents, nos grands-parents et chaque croyant et chaque croyant du feu de l'enfer. Chaque nuit, les anges font istighfar et doua pour nous lorsqu'on se réveille lors du repas du matin, du suhoor ou du sehri. Les doua sont exaucés, acceptés durant le mois de Ramadan et encore plus lors de la rupture du jeûne. Et il y a de ce mois, il est un peu tôt pour en parler, mais ça fait partie des vertus, la nuit du destin, hein, de la dernière décade, qui vaut mieux que 1000 mois. Les ulama, les muhaddithin, rahimahumullah, rappellent que tout ça, ce sont des actions intermédiaires qu'Allah nous donne la possibilité d'accomplir pour obtenir la piété, se rapprocher de lui. Et sans le moindre doute, ce n'est qu'un rappel, chacun d'entre nous, chaque personne présente dans cette assemblée et qui écoute à travers le lien de la Masjid Nour al-Islam et ailleurs, nous faisons déjà le maximum d'efforts pour réussir le Ramadan, pour nous rapprocher d'Allah et devenir chacun un meilleur croyant et une meilleure croyante. Qu'Allah accepte les efforts de chacun d'entre nous. Nous accorde la sincérité, la dévotion et la fermeté et nous protège des wasawis et shaitan et de tout ce qui peut entacher et affaiblir nos bonnes actions. Qulu amin ya jama'a. Chers frères et sœurs, on a parlé en introduction de ceux qui nous ont quittés, de la situation dans la tombe et des efforts que nous devons faire maintenant avec le mois béni et par la suite aussi pour préparer la mort. J'aimerais qu'on analyse la définition. Alors on va remettre un peu sur le tapis certains acquis là, mais c'est pas grave, on est là pour ça. J'aimerais qu'on remette un petit peu en question, on revoit un peu notre définition du bon musulman. Voilà, d'une autre façon, on analyse notre définition d'une vie qui a été acceptée par Allah. Dans Wallah l'Ida Yarsha, Allah Rabbul Azzam réveille Inna sa'ayakum la shatta. Chacun parcourt son chemin. Chacun avance depuis qu'il est dans ce monde jusqu'à sa mort avec des actions. Alors, comment peut-on définir une vie qui a abouti? Est-ce que celui qui a forcément la grande barbe et la tenue entre guillemets islamique, lui c'est bon, le paradis lui est accordé? Est-ce que c'est celui qui hafiz le Coran, le paradis lui est accordé? Est-ce que c'est les enfants Moulissab, c'est lui qui a le paradis? Est-ce qu'il y a une définition précise du muttaqi, de celui dont le passage sur la terre est khalas, agréé par Allah Azza wa Jal? Et grosse erreur très souvent qu'on fait quand on entend que quelqu'un est décédé, on dit « Ah, salé jannati ». Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a mandaté pour dire que fulan fil janna? Impossible. Impossible. Ou alors que Aya était personne n'est mort, mais ça, c'est compliqué, hein? Compliqué pour lui. Comment il a vécu dans ce dunya? Azab, 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 amay, azab dan kabar. A'oudhu billah, ista'idhu billah, min ash-shaytan ar-rajim. Astaghfirullah. Tu te prononces sur l'au-delà? C'est pas ton domaine, ça? Ça, c'est Allah qui décide. Et Allah qui connaît dans cette assemblée, on est 25 ou 30, je ne sais pas, qui est le muttaqi? Qui est le pécheur endurci? Qui est l'hypocrite? A'oudhu billah, qu'Allah nous protège du nifar et du fusouq, et wal isyan. Et qu'Allah nous accorde l'istiqama, l'ikhlas et les qualités des croyants pieux. très souvent défini le mu'min, le bon croyant, ou alors une vie bien menée de ce dunya. Pour nous, c'est celui qui, durant toute sa vie, a fait amal saliha, de bonnes actions, et qui meurt, mashallah, dans ses bonnes actions. Et on ne l'a jamais vu vraiment commettre des péchés, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu aller dans des endroits haram ou faire des choses interdites, ainsi de suite. Et on a donné cette définition qu'une vie réussie, c'est une vie où tu as cumulé toute bonne action possible durant chaque instant de ta vie avec la fermeté, sans jamais faiblir. C'est un raisonnement qui est correct. C'est un raisonnement qui est vrai. D'accord ? Quand on voit des tchatchas de la masjid qui ont leur habitude depuis qu'ils ont, je ne sais pas quel âge, avant notre naissance, ils ont leur Coran qui est au même endroit, ils lisent le Yassin le matin, le Adhkar, ils sont là à 5h30 du matin, ils sont là chaque salat. Et que leur barbe a blanchi, ça c'est un signe de husn al-khatima. Allah nous accorde. Ça me dit que le plus grand bienfait qu'Allah puisse accorder à un serviteur, c'est quand quelqu'un voit sa barbe blanchir dans les bonnes œuvres. Le frère, la barbe est très blanche, mais il n'est pas âgé, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas le croire. Quand la barbe blanchit toute ta vie, depuis que tu es jeune, comme Shab, un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah, et il a 75, 80, 85 ans, il est dans l'adoration, Allahu Akbar, khair wa ni'ma. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement positives. Mais ça ne se limite pas à ça. Il y a d'autres personnes qui réussissent leur passage dans ce monde et qui sont agréées par Allah. Bien sûr, on n'est pas en droit de juger. Lui, il a réussi, lui, non. Mais je veux dire qu'il nous faut une certaine ouverture d'esprit. Pourquoi ? Pour ne jamais porter un jugement sur notre prochain. Et ne pas dresser une panoplie du croyant. Celui, le musulman, le frère qui a toute namaz avec sa barbe et son kafni, lui, c'est bon. Celui qui est là que le Jumu'ah, lui, c'est pas bon. Attends, il n'est pas là le Jumu'ah, tu sais pourquoi ? Il est là que le Jumu'ah, tu sais pourquoi ? Tu sais qu'est-ce qu'il vit au quotidien chez lui ? Tu sais quelles épreuves il traverse durant sa vie ? Tu connais les problèmes de santé qu'il a ? Qui fait qu'il ne peut pas se pointer à 5h30 du matin Fajr au premier rang comme toi, qui vit une vie, mashallah, extrêmement fluide. Donc attention au jugement hâtif sur nos frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas une définition de taqwa, si, mais il n'y a pas une définition de sa'i, qui est une vie qui est acceptée et agréée par Allah. Il y en a plusieurs. Il y a différentes façons de réussir sa vie. Et c'est ce qu'on va voir. Pour comprendre justement ces différents cas de figure, de passage de ce dunya, je vais vous proposer, on va dire, c'est une approche un peu inédite, hein. On n'est pas dans un style de bayan, mais on est dimanche matin, on essaie d'être cool. Je vais vous présenter deux catégories de familles. Je vais vous décrire, et à vous de voir si vous vous reconnaissez dans ces familles. On a tout d'abord une famille qu'on appelle, que j'ai appelée, les noms sont d'emprunt, hein, d'accord ? S'il y a votre nom qui sort dedans, je suis désolé, d'accord ? J'ai essayé de trouver des noms, et je ne pouvais pas appeler monsieur X, Y, Z, ce n'est pas très élogieux. On a la famille Abdullah. S'il y a un Abdullah dans la salle, tant mieux. Lui, c'est le gars qui a bien réussi. Et Abdullah est marié avec Fatima. Ils se sont mariés à 23 ans. Bien ça, non ? Moussa, 23 ans. Ça va, tranquille. Ils ont maintenant 10 ans de mariage. Ils ont 33 ans. Force de l'âge, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont 3 enfants. Bonne moyenne. 3 enfants, 10 ans. Ça va, hein ? Alhamdulillah. C'est bien ça, 3 enfants, 10 ans, mashallah. Ils ont une situation financière stable. Anas, combien d'enfants, 5 ans ? Allah Rabbul Izzah ouvre. Inch'Allah, ça va venir. Et pour toutes les personnes qui sont dans l'Assemblée. Une situation financière stable. Et, là où je vais en venir, ils pratiquent la religion avec beaucoup de cœur, beaucoup d'ardeur. Et ils s'efforcent tous les jours d'accomplir le maximum de bonnes actions qu'un musulman peut accomplir dans sa vie. Alors, je vous explique leur quotidien. Hein. Mettre pas nazar chez autres, c'est fictif. Mettre nazar, c'est fictif. Ou alors, je peux vous dire. Tous les matins, ce couple se réveille ensemble et font tahajjud. Tous les matins. Ramadan, par Ramadan, tahajjud, monsieur, madame. L'homme, Abdullah, il va à la masjid tôt pour la salat de Fajr en jamaat, premier saf toujours. Son épouse, elle fait chez elle, elle réveille les enfants pour les envoyer à la madrasa. Parce que les trois font hafez. Pas mal de gens comme famille. Après Fajr, Abdullah reste dans la masjid. Il lit ce Coran, il écoute les programmes, il lit ce Coran, il fait dhikrullah jusqu'au lever du soleil et il fait shuruq, il rentre chez lui. Sa femme, pareil. Ishraq, Yassin, Ekchot Coran, elle prépare le petit déjeuner. Franchement, on est. Waouh! Vous avez connu la petite maison dans la prairie, mais ces références sont un peu vieux. Hein, hein. C'est la petite mosquée dans la prairie. Et pour ceux qui sont un peu plus jeunes, vous connaissez le blond de Gad Elmaleh, mais c'est le musulman blond. tout réussi, parfait, il surfe sur la vie, tranquille, le gars, il gère, il est impeccable. Et nous, quand le rat dit, mais comment il fait? D'accord? C'est exactement ça, en fait. Le matin, le mari va au travail, sa femme, alors là, je ne vais pas trop fermer les schémas, mais allez, je le dis, hein, elle est à la maison, elle fait quelques tâches ménagères, et elle va à la madrasa. Elle va à Hidayat Nissa, mashallah, et je salue tous les affaires de Hidayat Nissa, qui font un excellent travail. Elle va à la madrasa, et les enfants vont à l'école, stable. Le midi, repas en famille, je vais un peu plus vite. Namaz Zohor à la masjid, Asar, Maghrib, Isha. Le monsieur Abdullah, il rate pas une namaz en jamaat. Il est assidu, premier rang. Il peut se passer ce qu'il veut. Mon namaz, mon namaz. Mon premier rang, mon premier rang. N'est-ce pas là quelque chose de magnifique? Ça nous fait tous rêver. Un peu comme le. Vous savez, à moi, gloire et beauté, ces mots font rêver. Les références sont très vieux, je suis désolé. Hein. Ça fait rêver. Le gars, il gère son quotidien spirituellement. Il gère sa famille, il gère ses enfants. On dit waouh! Ça, c'est vraiment un mode de vie islamique. Le soir, ta'alim à la maison, avant chaque repas, bien sûr, on mange et chacun raconte sa journée. Et le papa est là, il écoute la maman, il débriefe, il écoute, il gère, il encourage les enfants, il donne un sens à ce qu'ils ont vécu. Vraiment des parents qui sont intentionnés. Le mari, toujours le bayan qui a appris Isha, il l'écoute. Et avant de dormir, histoire des prophètes, et les enfants lisent leurs doigts, leur calément, comme on disait à une certaine époque. Et tout le monde s'endort, waouh, et c'est une journée qui était magnifique. Le week-end, comment se passe le week-end? Tous les samedis soirs, Abdullah et son épouse, comment appelle encore son madame? Fatima, ils sont invités chez la belle-mère. Bon, pour moi, c'est une épreuve, mais espérons, on va considérer que c'est bien. Il y a une bonne entente. Ça peut être une épreuve. Il y a une bonne entente. Et le Abdullah avec sa belle-mère, c'est comme ça. Avec son beau-père, c'est comme ça. Et parfait, franchement, il y a des petits fleurs qui tombent à chaque fois du ciel quand le repas commence. Le dimanche, repas familial, à la plaine ou à Albourg ou à Salazie, enfin, peu importe, hein, maison secondaire, toute la famille réunie, Mohabbat, ils font même ta'alim avant de commencer, et tous les enfants de la famille, chacun lit un verset du Coran. Franchement, Mashallah, Mashallah. Comment se passent les vacances? Umrah tous les ans. Bon, ils ont déjà eu le Johnson, hein, ou le Pfizer, c'est pas mal. Et Umrah tous les ans, tout en famille. Et on va rajouter un petit truc. Tous les courbanis, tous les bakrides, ils font leur courbani et chaque enfant achète son cabri avec son argent de Idi. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent l'esprit de sacrifice d'Ibrahim a.s. Et ils sont pieux, ils avancent, c'est magnifique. On les regarde, on dit subhanallah, on dirait une famille de sahaba. Ça fait rêver une situation si stable, équilibrée sur le plan familial, relationnel, intense spirituellement, une vie bien organisée autour des ibadah, des bonnes actions, pas de péché intentionnel, des parents responsables, stables, pieux, qui veillent au tarbiyah, à l'éducation. Et ça dure depuis 10 ans. 10 ans de mariage, 10 ans de stiqama. Mais ces 10 ans-là n'ont jamais été perturbés par un quelconque problème ou un imprévu. C'est-à-dire, ils vivent dans une bulle, c'est une bulle ça, il n'y a pas beaucoup de bulles comme ça dans ce dunya, et ils sont dans leur zone de confort qui n'est perturbée par aucune épreuve. Il n'y a pas un qui est tombé malade, il n'y a pas un qui a eu un grave problème. Non, tout se passe au mieux, bonnes actions, jamais de difficultés. Je reviens. D'un regard extérieur, c'est une famille exemplaire de bons musulmans et Allah est le seul juge. Mais il faut reconnaître, chers frères et sœurs, que ça concerne 0,01% de la Ummah. Je vous rassure. Donc ne soyez pas affectés si vous n'êtes pas comme eux. Ça concerne presque personne. Et au cas où certains se reconnaissent, au cas où s'il y a les 0,01% présents dans l'Assemblée, on ne vous en veut pas, hein, que tout se passe bien dans votre vie, que vous êtes heureux. On est content pour vous, mashallah. Permettez-moi juste de vous donner quelques petits conseils. Si votre vie est comme ça, soyez reconnaissant envers Allah parce que vous vivez des jours en or. Vous vivez des jours en or, vous êtes comblé de bienfaits. Par contre, s'il vous plaît, ne regardez jamais les autres de haut. Il ne faut pas se considérer comme les vrais religieux et les autres, c'est des qu'on appelle les gounégars, les pécheurs, ceux qui sont insouciants, inconscients. Il ne faut pas se croire, moi je suis l'héritier des prophètes et les autres, c'est... Fais doigt pour les autres, Allah pardonne les autres. Abadan, il faut de la reconnaissance, beaucoup d'humilité et ne jamais porter un jugement sur ceux qui n'ont pas le même niveau de pratique religieuse. Parce que les croyants, dans une assemblée, dans une ville, dans une umma, ont des niveaux de pratique différents qui leur est propre à chacun et qui va dépendre de son histoire, de son vécu, de son passif, de ce qu'il vit au quotidien, des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas. Mais personne ne peut dire qui est meilleur que son prochain. Ça, c'est Allah seul qui le sait. Et je le dis avec conviction, un alim n'est pas forcément meilleur qu'un non-alim. Parce que la connaissance religieuse, tout comme la mémorisation du Coran, par exemple, dit « Al-Qur'an, hujjatun laka wa alayk », ça peut être quelque chose d'énorme pour toi le jour de Qiyama, ça peut également t'enterrer le jour de Qiyama, si tu ne les as pas mis en application. Je peux être un savant qui prêche et qui propage, mais je suis un hypocrite, je ne fais pas ce que je dis. Le jour de Qiyama, je ne dis pas « je », je n'ai pas envie de dire « je ». Le jour de Qiyama, cette personne, c'est la première personne à entrer dans le Jahannam. Parce que son but, c'était d'être « Ayn al-Majalis », d'être le centre d'intérêt et voilà que les gens soient autour de lui, mais il ne le faisait pas pour Allah. Avant ceux qui ont été dans le zina, dans l'adultère, dans le riba, c'est le alim qui va dans l'enfer. Donc personne ne peut dire qui est meilleur que son prochain. Naam. Et quand on parlait que la umma elle est diversifiée, il y a différentes catégories de personnes. Mashallah. Il y a de la lumière qui arrive, mashallah. Dans le même immeuble, il y a différentes familles. Et c'est là que ça devient un petit peu croustillant, notre intervention. Et on est d'accord que quand c'est croustillant, c'est bon. Moussa, on préfère un nem que les croustillants ou un nem que les ramollis. Croustillant, on est d'accord. Pareil pour un wonton, et ainsi de suite. Après, il y a des exceptions. La loupouri ne doit pas être croustillant, sinon il est racine. Bon, après, on ne rentre pas dans les maslas où il y a divergence d'opinion. Dans cet immeuble, il y a différentes familles et qui n'ont pas le même degré d'implication dans les bonnes œuvres. On a la famille, je le répète, ce sont des noms d'emprunt. Parce que là, on va passer dans les sujets un peu plus délicats. Il y a Ismaïl qui est marié avec Aïcha. Ils ont 12 ans de mariage. Et ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ils souffrent de cette situation. Ismaïl essaie d'évacuer comme il peut. Il se donne à fond dans son travail. Il fait du sport. Il fait tout jusqu'à épuisement pour essayer de ne plus y penser. Aïcha, c'est une femme qui doit être une maman. Elle a cette douceur et cette tendresse de le cœur, celle d'une maman. Elle n'arrive pas à évacuer cette tristesse. Et à chaque fois qu'il y a une réunion de famille, qu'il y a un repas, dans son cœur, elle pleure quand elle voit les enfants de ses sœurs et de ses nièces, ses cousines en train de jouer. Elle réalise à chaque fois que ma vie est différente et c'est une situation difficile. Et lorsqu'elle entend ses sœurs, ses nièces se plaindre que les enfants ils sont turbulents, ils ne font pas leurs devoirs, ils ont fait telle bêtise, dans son cœur, elle se dit que, mais, nashukriya, il ne voit que le mauvais côté du bienfait. Elle ne réalise pas que c'est un ni'ama d'avoir des enfants et elle ne voit que le côté qui est négatif. Lorsque ses amis viennent chez elle, Aïcha, elle trouve une maison qui est extrêmement bien rangé, et l'envie, elles font des éloges. T'es ta maison est en ordre, tu as la chance, on aimerait être comme toi. C'est une remarque qui est très maladroite et qui fait saigner un cœur qui n'a jamais cicatrisé en 12 ans. Elle aurait tellement aimé, elle aurait préféré avoir une maison vivante, en désordre, mais vivante avec des enfants plutôt qu'une maison aussi calme et silencieuse parce qu'elle n'a pas d'enfants. Chaque remarque, chaque scène de la vie, chaque fois qu'elle sort de sa maison, elle passe près de l'école Joinville, l'école centrale, l'ancien théâtre, elle voit des parents qui attendent leurs enfants, tout ça, ça réveille des blessures. Et à chaque fois, son cœur saigne. Et qui c'est qui connaît à cet instant que son cœur est en train de pleurer, de saigner? Allah! Alim umidat al-sudur. On a dans cet immeuble également, retenez les cas par contre, hein, retenez les cas de figure. On a Ahmad. Ahmad a 55 ans, il est marié avec Mariam. Ils ont 6 enfants. Mais l'un de ses 6 enfants a une maladie grave. Et c'est une souffrance au quotidien, entre rendez-vous réguliers chez les médecins, suivi à l'hôpital. Chaque étape de la vie est une montagne de difficultés. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est le jour de Eid et de Bakr Eid. Quand les familles se réunissent et qu'eux doivent rester au chevet de leur enfant. Et qui c'est qui voit leur douleur au quotidien? Les gens se sont habitués à ce schéma familial. Mais ce sont les parents qui pleurent intérieurement et qui revivent cette épreuve au quotidien. On a Nabila. elle a 28 ans, elle a quitté son mari. Vous savez pourquoi elle a quitté son mari? Elle était battue par son mari. Et ça, c'est inacceptable, ça. N'importe quelle femme musulmane qui reçoit des coups, elle doit quitter. Elle doit aller voir un fundi, un mufti, et ça, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer. Inacceptable. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais levé la main sur une personne. Qui sommes-nous, na'oudhou billah, pour manquer de respect à une créature d'Allah? Je ferme la parenthèse. Elle a quitté son mari parce qu'elle était battue par son mari. Et son mari a refait sa vie. Il a retrouvé quelqu'un d'autre et elle se retrouve, elle a dû trouver un logement d'elle-même avec, elle élève ses deux enfants seule. Et le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que son mari était quelqu'un d'influent de la société. Et il a fait croire à tout le monde, mon madame l'a quitté à moi pour un autre boug, pour quelqu'un d'autre. Et tout le monde regarde Nabila, cette femme de 28 ans, comme étant une zania, comme étant quelqu'un d'ingrate et qui a fait l'adultère, le haram. Mais vous savez pourquoi elle ne se défend pas? Parce qu'elle n'a jamais eu le courage de dire à ses propres parents que je suis une femme battue. Elle avait honte de le dire. Et elle souffre chaque jour du regard de la société sur elle. On a de cet immeuble également Zainab. Zainab, elle est veuve depuis 6 mois. Son mari est mort d'un cancer. Et ça ne nécessite pas d'explication. On comprend la douleur. On a enfin, je termine, Younous et son épouse. Ils avaient une entreprise, import-export, un commerce, peu importe le commerce, couple heureux. Mais avec les gilets jaunes et la crise Covid depuis 2 ans, leur entreprise a connu une situation, ils étaient dans le rouge. Ils ont fait faillite, ils ont dû vendre le fonds de commerce, ils ont dû vendre leur maison, ils n'ont plus de quoi finir le mois. Et là, ce mois de Ramadan, ils ont dû solliciter le vin pour avoir des colis alimentaires. Regardez de quelle situation ils étaient, où est-ce qu'ils sont arrivés, et leur propre famille leur a tourné le dos. Mes chers frères et sœurs, on a cité 5 cas de figure. Avec ces épreuves aussi lourdes, vous comprenez que toutes ces personnes, ils ne peuvent pas faire autant de bonnes actions que la famille Abdullah qui était au top spirituellement. Parce que ces gens-là, en fait, ils passent l'essentiel de leur temps à supporter, à vivre leurs difficultés. Ils sont à l'hôpital, ils vont chez le médecin, ils vont chez leur avocat. Ils sont en permanence en train de régler la grande épreuve qui fait leur vie, l'épreuve qu'Allah Rabbul Izza a envoyée dans leur vie. Et ils sont tellement accablés au quotidien, tellement déprimés et vidés de leur énergie, que leur demander de se réveiller 3 heures pour Tahajjud, franchement, ils ne peuvent pas. Et vous comprenez, dites-moi, vous comprenez que dans leur cas, il est difficile d'être performant, d'être top dans la religion. Tout le monde est d'accord. Et si vous l'avez compris, soyez rassurés et assurés, mes chers frères et sœurs, qu'Allah le sait. إنه عليم بذات الصدور. Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines. لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah ne dort pas, Allah ne somnole pas, sens du verset. C'est-à-dire qu'Allah est au courant de tout ce qui se passe. Allah est al-raqib, celui qui surveille et qui al-hafid, qui protège sa création depuis le début jusqu'à la fin. Allah connaît la situation de toutes les familles qu'on a citées parce que c'est Allah qui a envoyé ces épreuves et Allah qui les observe au quotidien. Comment ils souffrent et Allah paramètre et réajuste leur rang dans le Jannah en fonction de l'épreuve. Et Allah est le seul juge. Vous savez quel est le point commun de ces 5 familles éprouvées? Ils ont 2 qualités de base. Je ne parle pas de la famille Abdullah qui est pieuse, non. Les 5 familles éprouvées par le divorce, par les calomnies, par la maladie, par le décès du mari qui avait un cancer et ainsi de suite, par le problème de finances et ainsi de suite. Quel est leur point commun? Alors, j'ai oublié de vous dire, ils ont les bases de la religion. Ils font leurs 5 namaz. Là-dessus, ça, ce n'est pas négociable de toute façon. Ils font leurs 5 namaz. Mais pas plus, pas plus. Plus que ça, ne demande pas. Leurs 5 namaz basse. Et ils respectent les règles de base. Chaque femme qu'on a citée, Aïcha, Mariam, Nabila, quand elles sortent de chez elles, elles ont la tenue pudique de la femme musulmane. Là-dessus, mashallah, elles ont des bases. Mais elles ne peuvent rien faire de plus. Elles ne vont pas aller talim, l'idée à Tunisa, le mari ne va pas venir à masjid le premier rang, ainsi de suite, parce qu'ils sont pris de leur difficulté, de leur ibtila. Et deuxième qualité, c'était la première qualité, ils ne font du mal à personne. Leur cœur est pur et ils ne souhaitent du mal à personne. Et ils n'ont même pas le temps de faire panchat, ni ribat, ni médisance, ni calomnie, rien du tout. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des autres. Parce que toute leur vie, ils s'occupent de leurs gros problèmes et ils attendent qu'Allah leur envoie leur aide, son aide. Concernant maintenant leur attitude face à leurs épreuves, et là on en vient au sujet, concernant leurs épreuves, le point commun de ces cinq familles, ils acceptent tous les décisions d'Allah et comprennent que ces difficultés, ce n'est pas un malheur, ça. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas non plus, attache-toi à moi, mais ce que je veux dire, ce n'est pas facile à entendre. Ce n'est pas non plus que telle personne l'a fait djihadou sur moi, telle personne me veut du mal. Non, 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 non. Mets de côté tous les asbab et tout ce que tu peux entendre et penser. Allah a décrété que dans ma vie, il y a ce ibtila, cette difficulté. Ils l'ont accepté. Ils avancent dans la vie dans l'acceptation. Istislam ou lillah. Ils sont soumis à Allah. Ils sont dans l'acceptation de la décision d'Allah concernant leur vie difficile. Ils avancent le cœur léger. Ils vivent les épreuves, le cœur léger, et ils accomplissent les bonnes actions qu'ils peuvent faire. Et quand ils ne peuvent pas les faire, ils lèvent les mains et demandent à Allah pardon. Quand ils sont au CHD et qu'ils ont un rendez-vous à 14h et finalement ils sont sortis, je ne sais pas à quelle heure, ils n'ont pas pu faire le namaz à l'heure, ils disent à Allah, tu connais notre situation, tu as créé l'épreuve. Tawba ya Rabb. On ne peut pas les comparer à la famille Abdullah qui sont au top. Mais saviez-vous qu'est-ce qu'ils vivaient au quotidien? On ne le savait pas. Là, du coup, notre regard sur eux n'est plus le même. Troisième qualité, ils invoquent Allah, c'est-à-dire ils font du'a, sabahan wa masa, matin et soir, qu'Allah les délivre de ces situations d'épreuve. Et ça fait en moyenne 10 ans qu'ils font du'a. 10 ans qu'ils font du'a sans relâche. Chaque fois qu'ils cassent le carême de Ramadan, parce qu'ils ne vont pas se réveiller tahajjud, c'est difficile. Mais chaque fois qu'ils cassent le carême dans le mois de Ramadan, ils font du'a. Ils ont même été devant la Kaaba, Umrah, fait du'a. Ils ont même été au Hajj, Wukuf Arafah. Ils ont fait du'a. Ya Allah, kshif anna al-humum wal-humum. Enlève cette difficulté, accorde la santé, et ainsi de suite. Rien n'a changé. 10 ans de du'a, leur situation n'a pas évolué d'un iota. Mais ils continuent néanmoins à faire du'a et gardent espoir en Allah. Il y a des qualités qui se dégagent de ces familles. C'est puissant. 10 ans d'épreuve, 10 ans de du'a, 10 ans où il n'y a rien qui bouge. Mais ils savent que leurs du'a sont entendus par Allah et ils continuent sans cesse. Et ils sont arrivés à un tel degré d'acceptation qu'ils se sont dit, ils se disent entre eux, ils se soutiennent mutuellement que si ce n'est pas écrit pour moi de connaître la sa'ada, le bonheur de ce monde, c'est parce qu'Allah nous le réserve dans l'au-delà. Ils sont dans l'acceptation de la décision d'Allah et vivent dans l'espoir du akhira. Et c'est ce que je disais en introduction, on s'est attardé dans l'introduction, mais pour moi c'est la base. Pour moi, c'est la base. Vis ces jours de ce dunya et fais en sorte que tu te projettes dans le akhira. Accomplis une bonne action dans l'espoir qu'Allah t'aime, te rapproche de lui et t'accorde les récompenses de le jannah. Pas uniquement parce que l'action est faraz ou j'ai appris ça à la madrasa. Et eux, quand ils vivent les épreuves, ils ont les pieds sur terre, mais le cœur est déjà dans le akhira. Au quotidien, on termine avec cette qualité, au quotidien, ils regardent ceux qui sont plus éprouvés qu'eux et remercient Allah pour leur situation. Chers frères et sœurs, autant on était scotchés par la famille Abdallah qui était performante dans les bonnes actions, mais là, on se dit tous respect, respect. Parce que la famille d'Abdallah a développé des a'mal vahira, des actions externes. On appelle ça en aqida a'mal al-jawarih, les actions qu'on fait avec les membres. Eux, ils ont développé quoi? A'mal al-quloub. Les actions intérieures. Hubbullah, aimer Allah. Raja, confiance, espoir en Allah. Crainte d'Allah. Ihtisab al-ajr. Espoir de rétribution. Crainte d'Allah. Ne jamais désespérer. La tayyassou mir rawhillah. Ils ont développé ces qualités que les sahaba avaient au quotidien. Et vous savez comment ils sont arrivés à ce niveau de spiritualité? Il y en a qui se disent, mais il ne fait pas tahajjud, il n'écoute pas ta'alim, il ne fait pas tout ça. Et comment ils sont arrivés à ce niveau? Je vais vous dire une chose. Ils sont arrivés à ce haut degré de iman parce qu'ils ont compris le verset de l'épreuve de la sourate Al-Baqarah. Ils l'ont compris. Ils l'ont intégré. et ils le mettent en application au quotidien. Ça devient leur source d'inspiration au quotidien. C'est quoi le verset de l'épreuve de la sourate Al-Baqarah? Et c'est là que je m'adresse aux sœurs, de façon indirecte. Oh, ya ukhti, chère sœur, chère maman, chère tante, chère grand-mère qui est là. Si pendant le mois de Ramadan, tu fais un khatam tous les 5 jours, ce qui est exceptionnel, mais tu ne connais pas le contenu de quelques versets clés du Coran où Allah nous dit « Ya ayyuhal ladhina amanu » ou « Vous qui avez la foi » et Allah nous délivre des messages essentiels pour notre vie, c'est qu'il y a un manquement dans ton dîn. Et je le dis gentiment, mais c'est une réalité. Ce n'est pas mon ancienneté d'aller ta'alim ou alors le nom que je porte ou même pour les messieurs, mon hifz le Coran, mon tajwid, ma lecture ou mon apparence qui fait que je suis bien avancé dans la religion. Non. Si tu ne connais pas un minimum de versets, pas par cœur je veux dire, si tu ne connais pas le sens, le contenu d'un minimum de versets, tu n'arrives pas à te référer aux versets clés du Coran concernant la patience, la taqwa, la crainte d'Allah, le paradis et ainsi de suite, si tu ne les connais pas, c'est qu'il y a un grand manquement de ton dîn. Ton dîn n'est pas arrivé au niveau qu'il faut parce que tu n'as pas de lien avec le Coran et tu es en train de désobéir à Allah dans un ordre divin. Afala yatadabbarun al-Qur'an, ne médite-t-il pas sur le Coran? Et la suite est plus grave. Am ala qulubin aqfaluha, où y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Et on se pose la question, pourquoi je n'arrive pas à approfondir ma connaissance du Coran? Est-ce normal que j'ai 62 ans et que depuis que je suis baligh, je lis Alhamdou dans namaz et je ne me suis jamais posé la question, ça veut dire quoi Maliki yawmiddin? Ça veut dire quoi, Ihdina as-sirata al-mustaqim? Ça veut dire quoi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum? Si c'est le cas, c'est qu'il y a. Je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas égaré, non. Mais il manque des cases de ton parcours spirituel. Ne pense surtout pas que tu es au top parce que tu as de bonnes actions. Il te manque les bases. Et les bases, c'est ce que le Prophète m'a enseigné pendant 13 ans à Makkah, aux Sahaba, les bases des qualités de foi. Je reviens, je ferme cette parenthèse. Eux, ces 5 familles, ils ont compris. Et le verset en question, c'est « Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin » qu'on va essayer de développer dans un instant, inshallah. Ils l'ont compris. Comment? Soit ils ont écouté un bayan, soit ils l'ont lu, le tafsir d'Ibn Kathir ou de Sa'adi en français. Et Allah leur a donné le hidayah. C'est-à-dire que des fois, Allah guide ton cœur avec quelque chose. Allah met la conviction, tawfiq, que ton cœur s'imprègne de ce verset et il l'intègre, mais à 100%, ça coule presque de leurs veines, et c'est le cas de ces personnes-là, et ils le mettent en pratique au quotidien. Ce qui fait que, par le verset qu'on va essayer d'expliquer de l'Baqara, ils tiennent le coup, ils continuent d'avancer, ils ne sombrent pas dans la déprime, alors que la situation est déprimante, et ils avancent le cœur léger. Nous aussi, nous devons essayer de connaître ce verset, le comprendre, nous inspirer, pour que nous essayons de développer les qualités intérieures de ces gens, les qualités qu'Allah attend du croyant dans chaque situation difficile de la vie. Parce que même si nous ne vivons pas des situations si dramatiques que ces 5 familles, on peut trouver des points communs. Il y a des situations inévitables là où on est dans la détresse et nous n'avons que notre Seigneur qui peut nous aider. Si on n'arrive pas à ce moment à se connecter avec Allah, c'est que vraiment il y a un problème, il faut revoir nos bases. Le verset « Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah » Oh les croyants, cherchez secours de l'endurance et la salah. « Inna Allah ma'as sabirin » car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et je lis la fin du verset « Wa lanabluwannakum bishay' min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wa al-anfus wa al-thamarat wa bashshiril sabirin » Très certainement, nous éprouvons un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits et fais la bonne nouvelle, la bonne annonce aux endurants. Alladhina idha asabathum musibah, ceux qui disent quand un malheur les atteint, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est que nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Qu'est-ce qu'Allah leur accorde? Ulaika alayhim salawatun min rabbihim rahma, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun, et ceux-là sont les bien guidés. Les bien guidés, comprendre ce verset est une guidée d'Allah. Donner un sens à tes épreuves est une guidée d'Allah. Et Allah atteste que ces gens-là sont bien guidés. Mes chers frères et sœurs, à la lumière de ces versets, on est à 152, 157 de la sourate Al-Baqarah. Nous comprenons les points suivants. Alors, on ne va pas faire tafsir. Ce n'est pas un programme de tafsir, ce serait beaucoup trop long. Je vais juste vous citer 9 points qu'on dégage, mais rapidement, de façon synthétique et concise. Premièrement, ce que je retiens de ce verset, et je me réfère toujours à 2 tafsirs, Ibn Kathir et As-Sa'di. Et en complément, un excellent tafsir qui s'appelle Al-Barawi, mais qui n'a pas pour l'instant été traduit en français. Et accessoirement, cette fois-ci, de Al-Qurtubi. Premier enseignement, les épreuves font partie de la sunnah d'Allah. Vous savez, on connaît la sunnah. Pourquoi ça m'a fait telle action, c'est sunnah. C'est clair ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle sunnatullah? C'est comment est-ce qu'Allah agit avec la création? Comment il agit avec nous? Ça fait partie de son organisation de la vie sur terre que d'éprouver ses croyants au même titre que la mort, que la vie et la mort. On a tous intégré qu'on meurt. Quand quelqu'un meurt, on dit que le nafsin dhaïra, tout le monde, on dit inna illahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, on a intégré. Mais on doit réaliser qu'il y a un verset qui est plusieurs même, il y en a d'autres, spécifiques aux épreuves. Ça veut dire que la vie est organisée autour de ça. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, celui qui a créé la vie et la mort, ça j'ai compris. Mais Allah crée également les épreuves et ça fait partie du cycle de la vie. C'est la norme. C'est la norme pour un croyant que de vivre des épreuves durant toute sa vie. Et le contraire est inquiétant. Le contraire serait inquiétant, on va y venir. Et là, j'ouvre une autre parenthèse. Mon frère, chère sœur, si tu es concerné par les épreuves de la vie, mais tu ne connais pas les versets qui t'expliquent comment comprendre ces épreuves, comment les décrypter, comment les accepter, les vivre et les réussir et remplir la mission qu'Allah attend de toi de ce dunya par rapport à cette difficulté, c'est qu'il y a un manquement dans ton dîn et tu es en position de faiblesse. Apprends ces versets et tu trouveras la force pour surmonter ces épreuves. Ne te prive pas de la lumière du Coran. Ne te prive pas de ce qu'Allah a révélé dans le Coran. Pourquoi est-ce que nous tournons le dos au Coran? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que nous nous efforçons à aller dans tous les sens de la religion, beaucoup d'actions, voilà, très visibles, mais il y a très peu d'intérêt pour le tafsir, pour l'étude du Coran, alors que c'est la base, c'est le lien du croyant avec son Seigneur, c'est Kalamullah, la parole d'Allah. Donc, ceux qui vivent une situation d'épreuve, je vous assure, inspirez-vous de ce tafsir qu'on ne va pas faire, mais inspirez-vous de ce tafsir, ça peut changer notre vie et nous donner là la basira, la clairvoyance. Ce que je retiens, deuxième enseignement, être éprouvé, c'est un signe qu'Allah t'accorde une attention particulière. Mes chers frères et sœurs, chaque épreuve est personnalisée. Allah n'éprouve pas deux personnes de la même façon. Et une même épreuve pour deux personnes n'est pas vécue de la même façon. Si pour lui l'épreuve elle est gérable, pour lui elle peut être comme une montagne, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même contexte familial. Et Allah est le seul juge, c'est lui qui connaît ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Troisième enseignement, la patience, as-sabr, doit faire partie des qualités de chaque croyant, au même titre que je suis assidu aux prières, au même titre que je suis honnête, que je suis sincère, des qualités de foi. La patience, ça doit faire partie de tes qualités. Il n'est pas possible d'avoir un musulman qui est pas ban, comme on dit, qui est sincère, régulier, engagé dans tous les domaines de la religion, mais quand il y a le moins de problèmes, il explose, quand il y a le moins de situations de conflit, il devient rouge et il va vomir toute sa haine sur les gens. Moulissam, comme ça, il prend la colère, ou pas un vrai Moulissam. Telle personne qui donne l'apparence d'être pieux, mais quand il y a un problème, conflit d'intérêts, conflit d'argent, il sort de sa réserve et il est prêt à faire tout et n'importe quoi. Naqsun fi din, un manque de la religion. La patience, c'est une qualité qu'on appelle, on va utiliser les gros mots, une qualité intrinsèque aux croyants. Ça fait partie de toi. Ça constitue ta foi et ton islam. Et on ne peut pas être un musulman pieux sans avoir de sabr, de la patience. Quatrième enseignement, il y en a neuf. Allah Rabbul Izzah détaille les différentes épreuves. Ça, je vous laisserai lire la traduction. Entre la perte des biens, la diminution des récoltes, et pour chacune de ces épreuves, il y a ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. La perte des récoltes, nous ne sommes plus agriculteurs, la perte des récoltes peut être assimilée à une diminution des revenus locatifs ou commerciaux, ou bref, notre salaire, peu importe. À chaque fois qu'il y a un manquement des revenus, les savants disent que ce sont les ummahat al-ibtila, les épreuves mères, si on peut dire ça comme ça. Les épreuves ici essentielles et toutes les épreuves que je peux vivre de ce dunya découlent de ces épreuves-là et leur récompense se rattache à ce qui a été cité dans la sourate Al-Baqarah. D'ailleurs, ce que j'ai cité en introduction, les différents cas de figure, essentiellement étaient inspirés de ces grandes lignes. Cinquième enseignement, Allah nous révèle c'est quoi la vraie définition de la patience. Et si le programme devait se terminer avec ça, on terminerait déjà sur quelque chose de très important. La patience, ce n'est pas se résoudre à subir en silence, impuissant face aux difficultés de la vie et attendre que ça passe. Le mu'min qui a le sobre, ce n'est pas quelqu'un qui est passif et qui encaisse et qui dit que non, mais il n'est pas grave. Dunya, elle est comme ça, il faut être patient. Si tu dis que Dunya, elle est comme ça, il faut être patient, c'est la vie, il n'y a rien qui te distingue de celui qui n'a pas la ilaha illallah. Il y a autre chose. Tu dois être capable de trouver autre chose. Au contraire, la patience, c'est accepter l'épreuve. C'est avoir la conviction qu'elle vient d'Allah. C'est Allah qui me l'a envoyée de façon personnelle pour moi. C'est pour Anas, c'est pour Abdurrahman, c'est pour Ibrahim, c'est pour Abdullah. C'est avoir la conviction qu'Allah me l'a prescrit dans mon taqdir et dans un but précis. Les gens sont différents, le destiné n'est pas la même. Ce qu'Allah t'envoie, ça fait partie de ta vie. C'est cette épreuve est un composant de ta vie et un pont entre ce dunya et l'obtention du Jannah. Je répète, cette épreuve est un composant de ta vie. N'essaie pas de t'en défaire. Fais droit, bien sûr, mais ne te dis pas que si j'ai plus ça, je serai heureux. Si tu n'as plus ça, peut-être que tu n'es plus rien aussi. Si tu n'as plus ça, peut-être qu'Allah sait que tes actions sont tellement low, sont tellement bas, que s'il n'y a plus l'épreuve, il n'y a plus grand-chose pour toi pour te rapprocher de lui. Donc il y a des choses qui nous échappent. Il y a la vision humaine, l'approche humaine, que oui, ça c'est Dieu, j'aimerais que je ne sois plus éprouvé, que telle personne retrouve la santé, qu'il y a telle chose. Mais Allah sait, mille fois, au-dessus des sept cieux, que c'est ça qui te sauve. C'est cette épreuve qui te permettra d'accéder à son Jannah. Et le jour de Qiyamah, quand tu verras que tu entres dans le Jannah par cette épreuve, qu'est-ce que tu vas dire? Allahu Akbar wa illa alhamd. Louange à Allah qui m'a gardé de cette épreuve, de ce dunya, et qui n'a pas exaucé mes doigts. Et là, tu diras, Alhamdulillah, alladhi adhaba anna al-hazan. Ce que Cheikh Ouais a lu dans Fajr mercredi, magnifique. Alhamdulillah. C'est pas que la voix qui était belle, hein. C'est pas que la voix, on n'est pas là dans un concours de chant. C'est l'intensité par rapport au contenu. Et c'est là que, je ne juge pas, mais c'est là qu'on voit l'intelligence et la compréhension du imam. Bref. Alhamdulillah, il a insisté, Alhamdulillah, alladhi adhaba anna al-hazan. Mais ça, c'est puissant, ça. Vous savez quand est-ce que ça se dit ça, Alhamdulillah, alladhi adhaba anna al-hazan? C'est quand tu rentres le Jannah et tu remercies, oh Allah, merci que tu as enlevé toute, je ne sais pas comment traduire, la tristesse et les chagrins. C'est-à-dire que le jour où l'homme éprouvé rentre le Jannah, c'est la fin des épreuves. Terminé. Khalas. Ishta. Najahta. Et tu remercies Allah qui t'a éprouvé, qui t'a permis d'arriver à là. Ainsi donc, je répète ce que j'ai dit parce que c'est le message. Ton épreuve fait partie de ta vie. Ça constitue ton lien avec Dieu, avec Allah, et c'est peut-être le pont entre ton dunya et l'accès au Jannah. Donc, demande-toi qu'Allah te soulage, demande protection à l'infia. Mais si tu vois que 10 ans tu fais doigt et que ça ne part pas, c'est que c'est pour toi, ça. Ça, c'est au Jannah, ça. Sixième enseignement, Allah nous annonce qu'il est avec les patients. Inna Allah ma'a sabirin. Et là, c'est un peu long, je ne vais pas le développer. On appelle ça le ma'iyatullah. Quand Allah atteste qu'il est avec des serviteurs, c'est qu'Allah est avec toi dans chaque jour de ce monde. Donc, quand tu subis, dans un terme peu élogieux, mais plus moderne, quand tu dégustes au quotidien les épreuves, tu le vis chaque jour et que ça fait mal et que personne autour de toi ne voit ta douleur. Tu viens à la masjid, tout le monde te fait salam, comment il est, ça va, il est bien et tout, en pensant que tu vis comme tout le monde. Mais personne ne voit que derrière ça, quelle déchirure il y a. Et que tu le vis au quotidien et que tu t'en remets à Allah, sache que tu ne fais pas un pas de ce dunya et que tu es dans l'acceptation. Là, je parle des qualités de ceux qui ont compris l'épreuve, ce qu'on a cité. Hein. Quand tu es arrivé à ce niveau, sache que tu ne fais pas un pas de ce dunya. Tu ne vis pas un instant de ce dunya sans que ton Seigneur soit avec toi. Inna Allah ma'a sabirin. On n'a pas le temps de faire des quiz et de s'amuser, mais dans quelle autre situation Allah a dit au prophète alayhi salatu wa salam, et j'ai déjà donné la réponse, donc c'est fait. Et Abu Bakr al-Siddiq, qu'il est avec eux lors de l'émigration. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, le prophète dit Abu Bakr, Allah est avec nous. Avoir Allah, dans le sens à ses côtés, ça c'est une expression humaine, quand Allah est avec nous, Allah a dit qu'il est avec un Nabi alayhi salatu et Abu Bakr al-Siddiq. Et là, pour les patients, « Inna Allah ma'a sabirin », tu te rends compte qu'est-ce que tu as comme bienfait quand tu as accepté l'épreuve et que tu fais partie de Sabirin. Mais pas le Sabir qui dit que c'est comme ça et on va faire avec et tout, et il ne comprend pas qu'est-ce qu'il vit. Non, celui qui l'intègre, qui donne un sens et qui sait qu'il le supporte pour Allah, il attend la rétribution divine et il attend l'au-delà. Et il voue sa vie à Allah. Tout ce qu'on a cité, Allah est avec lui. Et à chaque instant de ta vie, maintenant que Dieu est de l'au-delà, ça on va voir dans un instant. Huitième et avant-dernier enseignement, c'est le septième plutôt. Allah nous annonce qu'il y a une bonne nouvelle pour ceux qui sont endurants, wa bashir as-sabirin, qui sont ces patients, ceux qui alladhina idha asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une qualité des vrais patients, c'est lorsqu'il y a une épreuve, ils disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est-à-dire que tu fais tout le temps le lien entre l'annonce du médecin, les résultats de tes analyses de sang, entre les difficultés que tu as avec ta famille, entre ton enfant qui est malade, entre ton épreuve, ta maladie à toi, et ainsi de suite, tu fais le lien avec « wa ilayhi raji'un ». Entre « inna lillah », de toute façon, je ne suis qu'une créature d'Allah. Allah fait de moi ce qu'il veut et j'accepte. Puissance. Ça, c'est des hauts degrés de foi. « Allahumma ja'alna minhum ». « Wa inna ilayhi raji'un ». Je retournerai vers lui de toute façon. Si Allah décide de me prouver, j'accepte et la récompense sera, inshallah, auprès de lui. Huitièmement, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Quelle est la récompense pour ceux qui ont cette faculté à dire, inna ilayhi, pas seulement dire, à le vivre, à faire le lien entre ce dunya et les récompenses auprès d'Allah? Ulaika alayhim salawatum rabbim rahma, ulaika humul muhtadun. Ils reçoivent les bénédictions, miséricorde de la part d'Allah, ils sont bien guidés. On a les tafsirs de Qurtubi, et c'est très beau, mais le temps ne nous permet pas. On comprend que c'est quoi les salutations d'Allah? Al-Qurtubi dit, c'est qu'Allah t'accorde son pardon. Allah te couvre durant toute sa vie de sa clémence. Allah te couvre durant toute ta vie de la miséricorde et de la bénédiction de ce dunya et également dans le akhirah. C'est-à-dire, la personne ne paye pas de mine, on le voit comme ça, tranquille, tranquille, mais il a une aide d'Allah et une assistance divine et une protection d'Allah qui dépasse tout ce que tu pourrais accomplir en 10 vies de ce dunya. Ça, c'est son grade et son rang auprès d'Allah. Et dernier enseignement qu'on peut tirer de ce verset, enfin, neuvième, pas le dernier, Allah nous indique une action qui permet aux croyants de trouver la force. La force quoi? La force spirituelle, mais également la force psychologique dans l'épreuve, c'est la salah, mais bien sûr, on parle d'une salah qui est faite correctement. Et tout ça rejoint notre introduction. Il y a celui qui prie comme ça, comme on dit un peu en créole, traditionnellement en casse-cou, si vous connaissez l'expression, il fait tac, 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 et puis il s'en va, et il ne sait pas qu'est-ce qu'il a lu, il n'a rien compris, il ne connaît pas la différence entre Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, et ainsi de suite. Malheureux, n'est pas pécheur, mais je veux dire, c'est vraiment dommage que tu n'as pas profité de cette action. Donc, cette même salah qui te... S'il vous plaît, on reste concentré, je perds le fil après. On disait donc que Allah nous indique cette action qui nous permet de trouver cette force mentale, cette force psychologique, c'est la salah. Et bien sûr, c'est une salah qui est accomplie correctement, avec dévotion, concentration, présence de cœur. Parce que celui qui fait son namaz sans réfléchir, sans comprendre, ça ne lui apportera pas grand-chose. Mais celui qui le fait avec cœur, avec dévotion, implication, il trouvera la lumière dans la salah. Mes chers frères et sœurs, cette même salah qui te permet de trouver la force de iman, cette même salah, pardon, qui te purifie de tes péchés au quotidien, on connaît le hadith, celui qui fait ses cinq salats, c'est comme celui qui se baigne dans un fleuve cinq fois par jour. Ça, c'est acquis, ça. Ça, c'est connu. Mais en fait, le problème, c'est que nous nous basons sur nos acquis basses. Je sais que le namaz te purifie des péchés, c'est tout. D'accord? On sait que la salat éloigne du turpitude et du blâmable. Ça aussi, je le sais. Mais je dois également comprendre que quand le voisin me dit « Ista'in obi sabri wa salat », la salat, théoriquement, c'est une recharge de batterie spirituelle. Comme les batteries électriques, tu charges la nuit. La salat, et c'est cinq fois par jour, subhanallah, si ce n'est pas plus. Quand tu pries, et là, ce sera un développement qui nous prendrait beaucoup de temps, chaque fatiha recharge ton iman avec des versets clés. Rububiya, alhamdulillahi, rabbil alamin, asma wa sifat ar-Rahman ar-Rahim, rububiya, malik yawmiddin, uluhiya, iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. C'est tout simplement magnifique et puissant, bienheureux. Celui qui vit al-Fatiha dans sa salat est bien malheureux et triste, celui qui ne vit pas. Et bien qu'Allah guide nos cœurs pour la compréhension des versets que nous lisons dans la salat. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, était le modèle dans la recherche de l'aide d'Allah à travers la salat. Chers frères et sœurs, chacun de ces 9 points de tafsir mériterait un développement, mais comme on l'a dit, on ne va pas le faire. On va conclure. Alors on conclut en 10 minutes. À peu près 10 minutes, ça peut aller, Inch'Allah, non? On essaie de quelqu'un doit aller manger biryani midi? Non, tranquille. Donc on peut y aller. Un peu de spiritualité quand même. D'accord? Et ça nous apportera, inshallah, beaucoup de bonnes choses. À la lecture de ces versets, après l'étude de ces deux cas de figure, de la famille Abdullah qui est parfaite, et ces cinq familles qu'on disait qu'il ne vient pas trop namaz, il n'est pas trop like ça. Qu'est-ce que c'est vilain? Pas trop like dinzat, c'est tranquille, namaz du moment, c'est tout. Maintenant qu'on a creusé, on a connu quelle est leur douleur, quelle est leur difficulté, et que notre regard a changé sur eux, on se dit que, subhanallah, spirituellement, ces gars-là, ils ont dépassé tout le monde, ils ont des qualités, c'est énorme. Après avoir étudié ces différents profils de croyants, après avoir eu un aperçu du verset de Sabr de la Surat al-Baqara, qu'est-ce que je peux, moi, véhiculer comme message à ces cinq familles? Et on comprend par analogie, à n'importe quelle personne qui est éprouvée par Allah de ce dunya, je ne vais pas faire de développement, je vais juste donner quelques pistes de réflexion. Mon but est juste d'encourager, de réveiller les qualités de foi afin que nous nous connections avec Allah et que nous comprenions comment est-ce qu'Allah agit avec nous. Premièrement, c'est une parenthèse, c'est un luxe, une parenthèse à 11h38, mais on se permet cette parenthèse. Personne n'est en droit de te donner des leçons de morale. Ceux qui ne vivent pas l'épreuve ne peuvent pas le comprendre. Et ils devraient moins parler et faire un peu plus de doua sincèrement pour vous, plutôt que d'essayer de faire le moralisateur. Donc dans les situations d'épreuve, n'écoutez pas les gens qui parlent beaucoup. Ah, pas grave ça, peut-être que ça fait trop gouna, peut-être que c'est... Laissez parler, ils peuvent même pas comprendre ce que tu vis. Donc ne fais pas un compte. Toi, tu te réfères à quoi? Au Coran, au verset qu'on vient de citer, c'est ta référence et non pas ce que les gens essaient de te dire. Alors parmi ces messages d'encouragement, premièrement, chers frères et sœurs, éprouvés ou qui vivent des épreuves, quelle que soit la nature de cette épreuve, même ceux qu'on n'a pas cités, il faut être capable de faire le lien entre ce qui nous arrive et la décision d'Allah, autrement on n'avancera jamais dans la vie. Quand on n'arrive pas à faire ce lien, que ça vient d'Allah, et que c'est Allah qui dit « Wala nabluwannakum ». Langue arabe, « Wala nabluwannakum », c'est quoi le damir? Nahnu, nous. Et nous, c'est qui? C'est le nous majestueux d'Allah. Allah te dit « Nous vous éprouverons ». Tu n'as pas compris que ce n'est pas la faute Maman Ila qu'elle a fait du mal, ce n'est pas son faute. « Wala nabluwannakum ». Et le lam, on ne va pas entrer dans les détails de conjugaison, c'est « attaquid », c'est donner plus d'insistance avec le tajdid du nun à la fin. Allah qui te dit, ils nous t'éprouveront. Mais si tu n'as pas compris que l'épreuve vient d'Allah, il est normal que de ton coco reste bloqué. Tu vas rester bloqué toute ta vie jusqu'à la mort. Tu n'arriveras pas à donner un sens à cette épreuve. On reste emprisonné dans un cercle vicieux de souffrance, d'incertitude, de doute. Allah nous protège du doute. Où on va vivre l'épreuve comme une calamité et on se condamne à la supporter sans spiritualité et donc sans profit. خسر الدنيا والآخرة. السعدي رحمه الله dans le Tessir al-Karim Rahman, il dit qu'il y a deux catégories de personnes, il y a al-sabir ou al-jazi'. Sabir, on l'a compris, le patient. Et al-jazi', c'est celui qui n'est pas patient, qui n'accepte pas l'épreuve. Il dit que lui, il a tout raté. Il rate son épreuve parce qu'il n'arrive pas à faire le lien et il n'obtient pas la récompense pour l'épreuve non plus. Qu'Allah nous protège de ce cas de figure. On ne va pas développer ce tafsir-là, c'est un peu long. Chers frères et sœurs, le cumul des preuves, et c'est là qu'on a dit tout à l'heure, le doute, attention, ça peut arriver aussi, peut même pousser l'homme à douter des décisions d'Allah à son encontre. Il peut se dire que oui, mais je fais namaz et tout, pourquoi Allah m'a envoyé cette épreuve? C'est pas normal. Là, il faut faire attention. Là, Shaitan a mis un pied dans ton ibtila, dans ta vie, et il va essayer de te détourner. C'est pour ça que, j'allais dire d'où l'importance, mais non, d'où l'urgence de comprendre le sens des épreuves et la vraie définition de la patience. Comprendre l'épreuve, je disais tout à l'heure que si on ne comprend pas, on reste bloqué. On n'avancera jamais dans la vie tant que tu n'arrives pas à faire un lien. Parce que dans ton épreuve, là, tu peux aller voir 10 médecins, 10 spécialistes, autant de chirurgiens. Tu peux aller à l'hôpital américain de Paris. Tu peux aller à Saint-Paltrier. Tu peux aller n'importe quel endroit, voir les plus grands médecins. Si Allah l'a pas écrit pour Shifa, tu n'obtiendras pas Shifa. Et tu vas rester bloqué dans la tête. Pourquoi? Et quand tu dis pourquoi, fa inna law taftahu amala shaytan. Quand on dit pourquoi, Est-ce que si, pourquoi pas, c'est que Shaitan, khalas, il s'est emparé de ton cœur et il te fait douter. Allah le protège. C'est-à-dire, dans l'épreuve, tu peux aller au summum du Firdaus, mais si tu n'as pas donné un sens, ça peut aller loin, ça peut aller vers le couffre qu'Allah nous protège. C'est pour ça que comprendre l'épreuve, la patience, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un bayan une fois dans l'année, dans Ramadan, pour écouter un truc un peu différent des actions. Non, c'est une qualité intrinsèque du croyant et il est urgent de comprendre le sens des épreuves et la vraie patience en islam. Si je comprends, qu'est-ce qui se passe? Je me libère. Vous avez déjà été chez un ostéopathe pour des trucs coincés, un disque coincé, ça vous donne mal à la tête, mal à la nuque. Vous prenez de l'iprane, ça ne marche pas, bon, paracétamol, pas de pub, d'accord? Quoique je dis Pfizer tout à l'heure. Vous prenez anti-inflammatoire, il passe pas. Vous avez fait des petits trucs de piqûres chinois, menthés, ça ne marche pas. Vous allez voir un ostéopathe, il a dit, je vais vous libérer une tension. Et il te fait une manipulation, crac, crac, halas. Tu dis, ajib. Plus rien. Déjà vécu, oui ou non? C'est du bonheur, ça, quand il te libère. Quand tu comprends l'épreuve, tu te libères de l'épreuve. Ça ne veut pas dire que l'épreuve est terminée. Mais à partir du moment, c'est comme si il n'y avait pas les rails. Tu as mis les rails et l'épreuve, khalas, il rentre dans les rails et tu avances jusqu'à retrouver Allah avec le cadeau. Le cadeau, ce n'est pas le fardeau. Le fardeau devient cadeau. Allah te l'a donné pour te faire accéder au Jannah. Maintenant, tu as tout compris. Alors que jusqu'à maintenant, tu ne savais plus le fardeau, tu le mets où? Mieux mettre dans le camion BVA? Non. Mieux mettre dans le train? Non. Mieux mettre dans le tram-train? Non. Je le porte sur mon dos? Non. Je le mets où? Qui le prend? Qui prend mon épreuve? Soulage-moi. Aide-moi. Chirurgien, neurochirurgien, parfois même des voix qui ne sont pas très nettes. Personne ne m'aide. Tu n'as pas donné un sens à l'épreuve. Tu as compris, ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Tu as mis les rails. Tu as eu la compréhension qui vient d'Allah. Et l'épreuve, elle est sur les rails. Maintenant, tu avances jusqu'à obtenir le paradis d'Allah, Azza wa Jal. Ikhwan ya khawati fillah, ce que je veux dire, c'est, j'assume ce que je veux dire. Il y a des gens qui obtiendront le Jannah sur le Musalla. Il y en a d'autres qui obtiendront le Jannah au chevet de leur malade. Ou sur un lit d'hôpital. Voilà, inna sa'yakum la shatta. Ce que je disais en introduction. Nos parcours sont différents. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un qui peut juger l'autre. Lui, il va obtenir, Abdallah va obtenir son Jannah sur son Musalla, lui. Tout le tahajjud jusqu'à sa mort, alhamdulillah. Mais les autres familles, Ismaïl et les autres noms que j'ai dit là, eux, le Jannah, ils l'obtiennent comment? À l'hôpital, dans les épreuves, au chevet de leur enfant qui est malade, au chevet de leur défunt, et ainsi de suite. Chacun obtiendra son degré par rapport à ce qu'Allah lui a prédestiné. Et donc, quand je disais que cette charge, quand tu as mis les rails et que tu as donné un sens, peut-être que c'est l'action de ta vie. Et que toutes les autres actions que tu as accomplies autour de ça, ce n'est pas très fort. Mais l'épreuve que tu vis, que tu comprends, c'est ton passeport, c'est ton accès au Jannah. Mais vous savez, arriver à ce niveau d'acceptation, ce n'est pas facile. Les qualités que ces cinq familles ont développées, ce n'est pas le cumul de a'mal. Ce n'est pas de tout le temps, il dit, fais a'mal, maman, il fait a'mal, on aura barakat. Oui, 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 a'mal, c'est bien. Mais ce n'est pas juste, je fais namaz, je fais ta'lim, je fais zikar, je lis le Coran et tout, j'enchaîne. Non, à un moment donné, on se remet en question, on voit notre iman, il est basé sur quoi? Et qu'est-ce qu'il me manque? S'il me manque, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri wa salat, et d'autres, ya ayyuhalladhina amanu, voilà mes manquements, à moi de les compléter pour devenir le bon croyant. Et donc, si on veut résumer, pour arriver à ce haut degré d'acceptation, il y a juste à développer al-iman billah et al-iman bil-qadha et al-qadr, croire en Allah et croire au destin correctement, deux thématiques qu'on ne peut pas développer. Deuxième point, et là je soulève une question taboue, question qui normalement ne doit pas être posée, pourquoi moi? Chaque personne éprouvée, à un moment donné, s'est dit, même s'il ne le dit pas ouvertement, mais intérieurement, « Tibé, mais il est sérieux quand même les affaires, mais pourquoi moi? Mais quoi m'en a fait comme ça ?» Des fois, on ne comprend pas. On dit, mais je fais tout ce qu'il faut, mais ça m'a touché très fort. Tant qu'on ne le verbalise pas et tout, on n'est pas dans le coup. Autre chose, bien sûr, mais il est humain et légitime, parfois, de se demander pourquoi. Chers frères et sœurs, ne pense surtout pas que l'épreuve est un signe qu'Allah est mécontent de toi. Non. Et n'écoute pas le petit kala qui donne des conseils bon marché, que vous faites trop gouna. trop guna. Allah va azmaishpo. Trop guna, arrête guna. Wama yudrik. Et qui te dit que ce sont mes péchés? Qui peut juger et interpréter quelque chose qui vient d'Allah à l'attention de ses serviteurs? Et vous savez, les mauvais conseillers, c'est une parenthèse, ils peuvent ruiner votre vie. Tout comme le bon conseiller peut vous aider. Vous savez, l'homme qui avait tué 99 personnes, dans le hadith d'Ibn Israël, il va voir un abid, quelqu'un qui est dans la main, mashallah, le tache la main sur le front qui fait le visage. Il est à fond dans les bonnes œuvres, mais ma fi ilm, pas de connaissance religieuse. Il a dit, halli min tauba, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il dit, jamais. Tu as tué 99 personnes, abadan. Mauvais conseiller, il a continué, il est resté dans le Marsia. Il a été voir un alim, un savant, qui a dit, bien sûr, Allah te pardonnera, mais quitte cet endroit, va à tel endroit, fréquente les gens pieux, demande tauba. Sa vie a changé, il a été accepté dans le Jannah. Les savants disent, le bon conseiller peut changer ta vie. Le mauvais conseiller peut te plonger dans les abysses et dans des situations que tu n'imagines pas. Donc, n'écoutons pas les gens qui parlent à tort et à travers. Celui qui n'est pas dans l'épreuve ne peut pas se prononcer. Il ne devrait pas se prononcer. Ce que moi, je dois retenir, c'est ce que mon Habib, alayhi salatu wassalam, m'a enseigné. Parce que vous croyez qu'il n'y a que nous qui sommes éprouvés? Les sahabas n'étaient pas éprouvés? Bien sûr qu'ils étaient éprouvés. Et le Prophète leur a donné les bons conseils. « Idha ahabba Allahu 'abdan ibtalah » Hadith. Lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, Allah l'éprouve. Man yuridillahu bi khayra yusib minhu. Lorsqu'Allah aime une personne, Allah Rabbul Izzah envoie des difficultés. On ne peut pas développer le hadith, le timing ne nous permet pas. On dit juste les usul aqlam, les hadiths de base. N'oubliez pas, quand tu te dis ben pourquoi moi, n'oublie pas que les gens les plus éprouvés, c'était qui? C'était qui, Faisal? C'était qui les plus éprouvés? Les prophètes. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés, c'était les Nabiullah. Est-ce qu'Allah les éprouvait? Na'oudou billah. Parce qu'ils faisaient trop de péchés? Non. Na'oudou billah. Allah éprouvait les Anbiya parce qu'Allah les aimait. Allah éprouvait les Anbiya, alayhimus salatu wassalam, parce qu'Allah voulait que ses prophètes soient, qu'ils réincarnent le modèle de la patience, l'exemple même de l'acceptation des épreuves et de le sens donné aux épreuves et dans la recherche de l'agrément d'Allah à travers les difficultés. Donc, mettez de côté hein, la thèse que c'est à cause de tes péchés qu'Allah t'éprouve. Non, parce que les Anbiya étaient éprouvés. Si je suis éprouvé, au contraire, le hadith, on ne développe pas, mais Allah éprouve une personne en fonction de son niveau de foi. Plus tu as un niveau de foi qui est dense, l'épreuve est forte. Et si ton iman est très faible, les épreuves sont également très faibles. Troisième enseignement, presque fini. Avant de voir, Inch'Allah. On peut aussi se demander, c'est une question légitime, ok, les épreuves, j'ai compris, mais c'est quoi le lien entre ma maladie, la maladie de mon enfant, le décès de mon mari, son cancer, quel est le lien entre ça et mon Jannah? Moi, j'ai plutôt appris à la madrasa que pour obtenir le Jannah, qu'est-ce qu'on fait? Maman, il fait bonnes actions, il ne fait pas péché. C'est ce qu'on avait dit en introduction. Et c'est un raisonnement qui est correct. Mais quel est le lien? J'aimerais comprendre parce que je fais tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut, je fais. Et je ne fais pas un gouna volontairement. Et s'il arrive que j'ai dit quelque chose de pas bien, je demande pardon à la personne, je demande tawba à Allah. Ben, quel... Je ne comprends pas. Essaye juste de me faire comprendre. Et c'est là qu'on arrive à des hadiths clés. Hadith Bukhari, muslim, ma min muslim, min yusibu adha min marab, fi ma siwa, on dit en français, il n'y a pas un croyant qui est éprouvé par Allah par une maladie ou toute autre chose, c'est-à-dire n'importe quelle autre épreuve, sans qu'Allah, Rabbul Izzah, ne le déleste de ses péchés, ne le vide de ses péchés, tout comme un arbre perd ses feuilles en automne. Lorsque vous secouez, il n'y a pas d'automne à rien, mais lorsque vous secouez l'arbre, la branche, les feuilles tombent de la même façon. Quand Allah éprouve, c'est qu'Allah veut te laver, te purifier. Ça ne veut pas dire que ce que petit Kala t'a dit tout à l'heure qu'on fait trop gounan. Non, ça veut dire que, et qui dit le petit Kala n'a pas un tagounan aussi, il dit, cause un tas, tout ça ribat, bohtan, il fait une amima, qu'il a wakwa, il raconte panchat et tout et tout. Peut-être que lui aussi son compte en banque est chargé, d'accord? Quand Allah décide de te vider de tes péchés, c'est qu'Allah t'aime. C'est qu'Allah ne veut pas que tu le rencontres le jour de Qiyama avec ses gounans, ses péchés. Donc Allah t'envoie des difficultés pour que les péchés-là, tu les laisses ici. Et c'est peut-être aussi parce que tes taubas ne sont pas au niveau. Tu demandes pardon, mais il manque quelque chose. Qui peut me dire, moi en premier, que mon namaz fajr était parfait ce matin? Qui peut dire? Allah seul le sait. On vient, on est sincère, on fait. Mais qui me dit que cette salat a été agréée par Allah? Parce que est-ce que j'ai réuni les conditions de Fajr, d'Abu Bakr al-Siddiq, de Omar, de Uthman, de Ali, d'Abdullah ibn Mas'ud, d'Abu Hurayra? Abadan, jamais de la vie. Jamais, il n'y a pas un pourcentage. Donc je ne sais pas moi, est-ce que mes actions sont acceptées par Allah? Et quand Allah voit, comme cela appartient à Allah, que le tawba de son serviteur n'est pas correct, il manque quelque chose, il demande pardon mais pas suffisamment, il manque d'intensité, et que tu n'arrives pas à laisser tes péchés pour avancer correctement vers lui, Allah t'envoie ses difficultés et par cela tes péchés sont, et là c'est une promesse d'Allah, les péchés tombent. Pas besoin de demander tawba dans l'épreuve, hein? Pas besoin de demander pardon dans l'épreuve. Dans l'épreuve, tes péchés sont en train de tomber. Wala tash'uru bi shay. Et tu ne ressens même pas que tes gounahs sont en train de s'effacer les uns après les autres. Il y a une belle citation de Qais ibn Abbad. Dans cette intervention, on parle de Qais ibn Hammad. Ça a été cité par Ibn Abi Dunya dans un livre magnifique sur la tombe qui est traduit en français. Sa'atul waj'i yudhibna sa'at al-khataya. C'est une citation, ce n'est pas un hadith, mais qui rejoint le sens de différents hadiths. Les moments que tu passes dans la souffrance, douleur, maladie, épreuve, ce sont des moments qui te lavent de tes péchés. Voilà donc un résumé. On avance encore dans l'étude de Hadith pour la question, mais quel lien entre mes difficultés et mon akhira? Et pourquoi pas plutôt un lien entre mes namaz et le akhira? Hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Ibn Hibban, « Inna rajul ala yakuna lahul manzil inda Allah » Chaque homme a un grade, un rang près d'Allah. Mais des fois, « Fama yablouha bi amal » Des fois, l'homme n'arrive pas. Allah t'a prédestiné un degré de le Jannah. Mais tu n'y arrives pas. Allah voit que, et Allah connaît, hein, tu n'y arrives pas. Tes namaz ne sont pas top. Tes doigts ne sont pas top. Ton istighfar ne monte pas très haut. Tu n'arrives pas. C'est comme si, comparaison, un décalé, hein, comme tu vois un enfant qui essaie de monter un escalier, il n'arrive pas, un petit bébé à quatre pattes et tout. À un moment donné, tu fais quoi? Tu vas le prendre. Tu le portes, tu vas l'aider. Ce n'est pas que tu le mets en situation d'échec, tu es incapable, tu ne monteras jamais l'escalier. Tu monteras un jour, Inch'Allah. C'est que tu l'aides, ce que tu vois, il n'y arrive pas. Et donc, le sens de ce hadith, c'est des fois, l'homme, ma yablouha bi'amal, il n'arrive pas à atteindre ce degré par ses actions. Fala yazalullahu yabtalihi bima yakarhu hatta yubalighahu iyyah. Allah l'éprouve donc par ses épreuves jusqu'à ce qu'il arrive à ce degré. Mais dans ce dunya, est-ce que j'en suis conscient? Non, je ne comprends rien, moi. Mais il y a un coup de coin. Coup de choc tout le temps sur moi-même. À moi-même, il y a des problèmes à chaque fois, ainsi de suite. Mais c'est le jour de Qiyama, lorsque les portes du paradis te sont ouvertes et que tu vois que tu accèdes au Jannah, pas par ton namaz tahajjud, par ton umrah et par ton hajj que tu as pas fait correctement, mais par tes épreuves. Le croyant réalise que j'ai eu une vie accomplie. Et j'ai été bien guidé par Allah. Wa ulaika humul muhtadun. J'ai été guidé par Allah Azza wa Jal. Quatrième enseignement, sache ô croyant, qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Si une personne pense que je suis dans mes épreuves, mais je vais m'en sortir avec mon mental, mes formats dans la tête, ou alors avec l'aide des gens, vous allez voir un psychologue, vous allez voir un psychiatre, vous allez voir un, je ne sais pas quel genre d'escrocs encore qu'il y a sur le marché qui ont des formations sur Internet en 3 jours et qui te font 70 euros la séance. Il y en a plein, d'accord? Tu vas voir toute qualité de psychothérapeute, voilà, je cherchais les termes. Plein de psychothérapeutes, ils essaient de t'aider, il faut faire ça. Attends, mais appuie sur le front et autre problème, va aller. Il arrête, Dalik. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir uniquement avec l'aide des gens ou avec ce que tu prétends être ta force mentale. On a besoin d'Allah dans ces moments. Si le cœur n'est pas lié avec Allah, on ne s'en sortira jamais. Ta vie sera un cauchemar. Alors que la vie de l'éprouvé, les sahaba le vivaient comme une gratification de la part d'Allah. On conclura avec ça dans un instant. Et de quoi on a besoin? Quand on dit « j'ai besoin d'Allah », c'est simple de dire ça comme ça. On a besoin de quoi exactement? Ce n'est pas que j'ai besoin de faire plein de namaz. Il y en a qui font plein de namaz et qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent comme difficulté. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. J'ai besoin d'Allah, ça veut dire que je dois connaître Allah par ses noms et ses qualités. « Al-asma wa sifat ». Connais qu'Allah est Rahman, Rahim, Karim, Latif, Basir, Sami', Alim, Umbidat, Soudour, Hakim, et ainsi de suite. Les noms d'Allah qui te permettent de comprendre comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal agit avec toi. Et là, tu comprendras ce qui t'arrive. Tu as besoin de connaître le sens de la parole d'Allah, c'est le tafsir, des versets de base qu'on a dit tout à l'heure. Et tu dois avoir des modèles dans la vie pour avancer. Le discours, al-bayan, la yakfi. Il faut le modèle. Allah révèle le Coran, ce sont les versets, mais le modèle, c'est qui? Al-Habib, alayhi salatu wa salam, c'est lui qui fait vivre. Aïcha dit que quand on lui demandait comment était le comportement du Prophète, kana khuluquhu al-Qur'an. Ce qui n'est pas notre cas. Hein. On peut être alim, mufti, je ne sais pas quel qui a été titre, mais quand on regarde notre holoku, notre comportement, très souvent, ce n'est pas le Coran, hein, d'accord, c'est autre chose. Dans la masjid, oui, mais après, quand je suis devant le notaire, quand je suis face à quelqu'un à qui je dois de l'argent, c'est plus la même chose, d'accord. Le prophète, c'était l'exemple. Ainsi donc, je dois, et ça c'est une thématique que je ne vais pas développer parce que ce serait abusé cette fois-ci, lire l'histoire des Anbiya alayhimus salat wa salam et comprendre qu'ils ne se sont jamais plaints de leurs épreuves. Pourquoi? Ils s'en remettaient à Allah. Donnez-moi juste le temps d'Ibrahim alayhi salam. Après je ne sais combien d'années, Allah lui demande, après il avait, il me semble, 82 ans, Allah lui accorde Ismaïl alayhi salam, Allah lui demande de l'immoler. Il sait que c'est la volonté d'Allah, il le fait. Avant ça, Allah Rabbul Izzah lui a demandé d'abandonner sa femme dans le désert avec le bébé. Le désert de Mecca. Et quand je dis le désert de Mecca, il n'y avait pas Hilton, Sheraton et Darut Taqwa, Darut Tawhid. Sahara, ma fi shay. Rien. Le désert où, qui est synonyme de mort. Son épouse a trouvé, elle a juste posé une question. Et pour montrer que le tarbiyah, l'éducation islamique était là. Ah, Allahu amaraka bihada. Quand est-ce qu'on met deux alifs, Faisal? On combine deux alifs par un mat quand c'est A, est-ce que? Règle de grammaire basique. Est-ce Allah qui t'a demandé de faire ça, de nous abandonner, de le désert? Pendant le prophète dit oui. Allah t'a demandé, sami'na wa ta'na. Et Ibrahim alayhi salam l'a fait, son épouse l'a accepté, Ismaïl a accepté le sacrifice, ainsi de suite. Tarbiya ilahiya. Les prophètes, ils savaient que ce qui vient d'Allah, on l'accepte et on a l'aide d'Allah. Le prophète, alayhi salat, Yaqub, alayhi salam, je dis, je ne le dis pas, mais je le dis, 18 ans, il était malade. Il s'en est remis à Allah, azza wa jal. Ayyub, alayhi salam, pardon. Yaqub, alayhi salam, a vécu la trahison de ses fils. Il ne s'est jamais plaint aux gens. Qu'est-ce qu'il disait? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Je m'en remets à Allah. Le prophète, alayhi salat wa salam, hadith wa la haraj, décès de son père, de sa mère, de son grand-père, de son oncle, de son épouse, de ses deux filles et de son fils. Il voit sa umma persécutée à Mecca. Il voit Soumaya radiallahu anha qui est écartelée. Il voit la famille de Al Yasir qui est tuée, le papa jusqu'à l'enfant. Il ne peut rien faire et dire sabran ya Al Yasir. Fa inna maw'idakum al jannah. Soyez patients, ô tribu de Yasir. Allah vous accordera le jannah. Il voit les Quraysh le trahir, l'accuser d'être menteur, d'être un sorcier. Il voit les Banu Thaqif, comment ils agissent avec lui à Taif, Uhud. La calomnie de Aïcha, la sorcellerie, il a été empoisonné. Toutes ces épreuves, il n'y a pas un prophète qui a connu autant d'ibtila que le Nabi alayhi salat wa salam. Qu'est-ce qu'Allah lui dit? Je ne développe pas, je dis juste le verset. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajran ghayra mamnun. Ô Muhammad, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur possédé, il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. Surat Al-Qalam. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi une 40e parenthèse avant la fin de ce programme. Les versets Makki, c'est de l'or. Les versets Makki révélés à Mecca, allez dans Amma, Tabarakalladhi, et Qad Sami'a Allah, lisez le tafsir. Si vous voulez lire le tafsir, commencez pas par Baqara, vous allez être perdu. Baqara, c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre sur Baqara. Lisez Al-Muzzammil, Al-Muddathir, Nun, Wal-Qalam, Yama Yasturun, Al-Haqqa. Ça, la sa'ilum, subhanallah, ça vous apporte un regain de iman. Je le dis par expérience, on a travaillé ça pendant longtemps avec Masjid de Latanier. C'est énorme, parce que c'est les phases où les croyants étaient en difficulté et Allah renforce ton iman. Tous les amal al-qulub, c'est maintenant que tu apprends dans ces qissar al-suwar dans les versets makki. Allah Azza wa Jal, dit au sallam, Rabbul Mashriq wal Maghrib, la ilaha illa hu, fattakhidhu wakila, le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends le don comme protecteur. Orientation du cœur vers Allah Azza wa Jal. Wasbir ala ma yaqulun. Fais preuve de patience. D'autres versets, wa tabattal ilayhi tabtila, adonne-toi à l'adoration de ton Seigneur uniquement. Voilà l'enseignement, voilà les encouragements de notre Seigneur à l'attention de la personne. On a besoin de prendre les Anbiya alayhi salat wa salam comme modèle. On conclut. Sache, chers frères et sœurs qui t'éprouvaient, que tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Allah sait exactement ce qui t'arrive et t'accable. Comme on l'a dit, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah est parfaitement conscient. Il sait ce qu'il y a dans ta vie, dans ta poitrine, alim bi dhati as-sudur. Mais si tu suis les recommandations de ton Seigneur, tu suis Allah, Allah te promet « Inna Allah ma'as sabirin » Allah va te donner la force spirituelle d'obtenir le meilleur de cette épreuve. Rassure-toi, Allah a le contrôle sur tout. tout ce qui arrive est sous son contrôle. N'oublie jamais qu'Allah est clément, miséricordieux. Allah est Latif. Je terminerai avec ce nom d'Allah qui pour moi est le plus important pour la personne éprouvée. Al-Latif, c'est le bienveillant. Et en Aqidah, les ulama disent, le bienveillant, c'est celui qui connaît la situation de chaque personne et qui envoie l'épreuve personnalisée pour te permettre d'atteindre le Jannah tout en tenant compte de tes faiblesses, de tes limites et de ce que tu peux supporter. Car Allah dit le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha. Et dans le cas où tu as beaucoup fait doua et que rien ne s'est passé, sache qu'Allah te réserve quelque chose d'énorme. Et c'est notre point de conclusion. Et c'est pour moi un des hadiths les plus magnifiques concernant l'épreuve. Ma yazalu al-bala'u bil-'abdil mu'mini hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi min khati'a. Il y a des gens qui sont tellement éprouvés du matin au soir. L'année commence, l'année se termine. Les épreuves s'enchaînent, il y a des nouvelles qui se cumulent sur son dos. Et on le regarde, on dit, mais Koussa Bougla l'a fait pour gagner toute sa difficulté. Allah nous explique ce hadith, que lorsque l'épreuve tatarakam s'accumule sur le croyant, Allah tellement efface les péchés de cette personne. Et le hadith, c'est une métaphore qui est parlante. Yamshi ala vahril ardi. Cette personne marche comme vous et moi sur la terre. Il marche sur la surface de la terre à côté de vous, à côté de moi. Et il n'y a pas un gouna, il n'y a pas un seul péché qui reste encore dans son livret de compte, parce que ce qu'il vit comme épreuve et le sens qu'il donne, la patience qu'il a développée est telle que Allah pardonne ses péchés au quotidien. C'est comme si s'il y a eu un manquement, c'est immédiatement effacé parce qu'Allah sait ce qu'il a mis sur tes épaules. Et qu'est-ce qui se passe au jour de Qiyam? Tu te présentes devant Allah sans péché de ton livret de compte. C'est un accès au Jannah et c'est le jour de Qiyama uniquement. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah rétribue les patients sans compter. C'est le jour de Qiyama que les patients verront la récompense de leurs épreuves. Qu'Allah Rabbul Izzah nous. Je m'excuse, on a été un peu long, mais j'espère que ça a été profitable, Inch'Allah. Et que même les moments où vous avez tous un peu décroché, je vois quand vous décrochez, et que même ça, que les paroles pénètrent les cœurs. Et qu'Allah nous permet de trouver le déclic, ce qui nous manque dans notre spiritualité, dans notre lien avec lui, pour comprendre le sens des épreuves. Et que même si on n'est pas beaucoup éprouvé, il ne faut jamais demander d'épreuves, par contre, hein, jamais demander. Demandez toujours protection et al-afu ou al-afiya. Mais s'il nous arrive quoi que ce soit, j'arrive à faire le lien. Je ne cherche pas de coupable. Je me dis que ça vient d'Allah, sagesse divine. Je m'en remets à lui. J'adopte le bon comportement, comme tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et j'attends la récompense de mon Seigneur en faisant doua sans jamais perdre espoir. Qu'Allah Rabbul Izzah accorde la santé aux personnes qui sont malades. Qu'Allah délivre chaque croyant de ses difficultés, de ses épreuves. Qu'Allah délivre les gens qui sont accusés à tort de choses qu'ils n'ont pas fait, de bohtan, de namima, de toutes choses. Qu'Allah soulage leur cœur, apaise nos cœurs, nous permet d'avancer le cœur léger, nous accorde la basira, la clairvoyance, la compréhension de la religion, al-furqan, le discernement, pour que nous vivions avec la taqwa et les a'mal, et qu'Allah soit satisfait de nous jusqu'à ce que nous retournions vers lui. Ma tawfiq illa billah. Subhanallah, bihamdihi, subhanak Allahumma, bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Fik barakallah.